débute avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Coup d'État ou pas au Zimbabwe. L'armée a pris le pouvoir, le président est retenu, mais les autorités démentent le putsch. La situation du Premier ministre libanais n'est toujours pas claire, alors qu'il est attendu à Paris. Et les Socceroos se qualifient pour leur 4e Coupe du Monde de leur histoire. C'est du football. Nous débutons donc ce journal avec la situation volatile au Zimbabwe. Situation volatile qui suscite de nombreuses interrogations. Le président Robert Mugabe est toujours placé en résidence surveillée par l'armée. Cette dernière a pris le contrôle de la capitale, Harare, mais refuse de parler de coup d'État. Le point avec Constance Léon.
Eh bien, le sort des Zimbabwéens demeure pour l'instant entre les mains des militaires. Pas de nouvelles cependant du chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga. Le chef de l'État, Robert Mugabe, a indiqué cet après-midi à son homologue sud-africain qu'il est assigné à résidence. Dans les rues d'Harare, la capitale du Zimbabwe, les véhicules blindés barrent plusieurs routes depuis ce matin. Les accès sont bloqués vers le Parlement, le siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et la Cour suprême. L'armée dit qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État contre le gouvernement. Elle assure qu'elle veut écarter les criminels dans l'entourage de Robert Mugabe. Les militaires semblent vouloir empêcher Grace Mugabe de remplacer son mari. La première dame a déjà obtenu la tête d'Emerson Mnangagwa, l'ancien vice-président. Impossible de dire pour le moment si ce coup de force mettra fin à l'ère Mugabe depuis 37 ans au pouvoir.
Voilà donc Constance Léon pour RFI. En tout cas, écoutons des réactions dans la rue. Et la population du Zimbabwe est plutôt unanime.
Ça va tout changer. Nous allons être libres et nous allons avoir une économie plus stable pour travailler au Zimbabwe plutôt que de partir trouver un emploi à l'étranger.
Nous espérons que l'intervention de l'armée va durer peu de temps car le peuple zimbabwéen doit décider de son avenir seul.
C'est une bonne chose que Mugabe ne soit plus là, car il ne fait rien pour le peuple. Les gens pleurent, souffrent là-bas. Ils ne font que venir ici en Afrique du Sud pour espérer travailler.
Rien ne changera si Emerson Mnangagwa lui succède, car il fait partie de la même famille, il applique les mêmes règles. Il fera la même chose que Mugabe. Les gens continueront de souffrir et l'économie ne va pas s'améliorer. Donc il serait regrettable que Mnangagwa prenne la succession.
Voilà donc certaines réactions du peuple zimbabwéen. Et maintenant, d'un point de vue politique, on va écouter la réaction de la première ministre britannique, Theresa May.
We've all seen what has been taking place in Harare. We are monitoring those developments very carefully. The situation is still fluid, and we would urge restraint on all sides because we want to see and we would call for an avoidance of violence. Of course, our primary concern is the safety of British nationals in Zimbabwe, and that our obviously, in an uncertain political situation, we do see reports of unusual military activity, so we would recommend British nationals in Harare to remain safely at home until the situation becomes clearer.
Voilà, donc Theresa May, la première ministre britannique. Il faut rappeler que le Zimbabwe est une ancienne colonie britannique. Écoutons également les porte-parole des anciens combattants au Zimbabwe, Douglas Maina.
We also want to facilitate good and proper running of political parties in the forthcoming elections.
To us, it is a victory for the war veterans and the people of Zimbabwe, because the war veterans are the army of the people.
Voilà, donc le porte-parole des anciens combattants du Zimbabwe, Douglas Maina, situation très volatile là-bas. Journée historique hier en Australie, les résultats du référendum sur le mariage pour tous et cette victoire du oui avec 61,6% des votes. Et depuis la divulgation des résultats, le projet de loi a été présenté au Sénat et d'après Dean Smith du Parti libéral, ce projet de loi semble être juste. On l'écoute.
This bill seeks to remove existing discrimination from the Marriage Act, protect religious institutions and does not reintroduce commercial discrimination. Let me be clear. Amendments which seek to deny gay and lesbian Australians with the full rights, responsibilities and privileges that they already have will be strenuously opposed. The change proposed in this bill is not revolutionary, it is evolutionary.
Voilà, donc Dean Smith du Parti libéral. Et ce projet de loi a d'ailleurs l'appui de Penny Wong, qui demande à ce que tout cela se passe très rapidement. On l'écoute.
Australians have made their views clear and they want everyone to be treated equally before the law. The Australian people have done their part and now it is our turn as parliamentarians to do ours.
la sénatrice Penny Wong. Quelques réactions par rapport au résultat du référendum. Tout d'abord, eh bien, Malcolm Turnbull, le Premier ministre. Pour lui, le message des Australiens est clair.
We put our faith, I put my faith in the goodwill, in the common sense of Australians, and they responded with responsibly, with love, and with respect.
Yeah.
So they put their arms around same-sex couples and said, "We respect you, we love you, your committed relationship is worthy of the same respect as ours."
Le Premier ministre Malcolm Turnbull, du côté de l'opposition, soutiendra la loi, même si 9 bastions travaillistes ont voté non. On écoute le leader de l'opposition, Bill Shorten.
I'm offering Turnbull, Mr. Turnbull, my cooperation. My united Labor team are committed to voting for this. I think we can do this within the last 2 weeks of Parliament. And for those who don't watch the calendar of Parliament, we start sitting again in the House of Reps on November the 27th. We're scheduled to finish on December the 7th. I think December the 7th, we can have this done and dusted, all ready to go.
Voilà donc le leader de l'opposition, Bill Shorten, qui met une date dans le calendrier. 13h07, la COP23 à Bonn maintenant en Allemagne. Et la mobilisation d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel pour l'environnement. Dernière ligne droite donc pour cette 23e édition de la conférence sur le climat. Et les deux leaders européens sonnent la révolte. Julien Chavanne.
Oui, Emmanuel Macron a profité de cette COP23 pour adresser en quelque sorte une piqûre de rappel aux pays industrialisés. Il a notamment cité le cri d'alarme des 15 000 scientifiques publié dans la presse cette semaine. Et le chef de l'État a employé des mots très forts. Le seuil de l'irréversibilité a été franchi. Si nous continuons comme ça, des peuples ici représentés disparaîtront, a-t-il lancé. Un discours volontaire pour tenter de redonner un nouveau souffle à l'accord de Paris. 2 ans après son adoption, Donald Trump veut s'en retirer. Eh bien, Emmanuel Macron a appelé l'Europe à prendre en charge le financement du GIEC, le groupe d'experts du climat de l'ONU, à la place des États-Unis.
Voilà pour la question internationale, Julien. Mais à la tribune, le président Macron en a aussi profité pour défendre sa politique en matière d'environnement.
Et il a répondu franchement aux ONG qui critiquent les dernières décisions du gouvernement, par exemple sur la réduction de la part du nucléaire ou encore sur l'aide aux pays du Sud. Écoutez la défense du président français.
Aucun recul sur notre engagement pour le climat n'a été fait, au contraire. Des décisions responsables ont été prises, qui ont abandonné les fétiches irréalistes, mais ont pris avant tout un agenda de décisions crédible, volontariste, qui supposera l'engagement de tous. J'y veillerai et je m'en porte ici garant.
Les fétiches irréalistes dénoncés par Emmanuel Macron, ces ONG qui le critiquent, il a pu les rencontrer directement dans la zone réservée à la société civile, ici à cette COP23. Il y avait notamment le WWF, rencontre à huis clos en compagnie du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot.
Et c'était Julien Chavanne, donc à Bonn pour RFI. Direction le Liban maintenant et le sort du Premier ministre Saad Hariri. Il avait annoncé sa démission, c'était au début du mois. Il avait annoncé cette démission depuis l'Arabie Saoudite. Et puis il n'y a toujours pas rejoint le Liban, ce qui suscite de nombreuses interrogations sur sa liberté de mouvement. Et la présidence française annonce qu'il devrait arriver en France, à Paris, dans les prochains jours, à l'invitation d'Emmanuel Macron. Le point sur la situation tendue donc à Beyrouth avec Paul Khalife.
Le Liban a haussé le ton ce mercredi, 12 jours après la démission surprise de son premier ministre, annoncée à Riyad dans des conditions jugées anormales par Beyrouth. Le président Michel Aoun a affirmé que le Liban considérait officiellement Saad Hariri comme détenu en Arabie Saoudite. Le chef de l'État a ajouté devant les patrons des radios et des télévisions du pays que les membres de la famille du premier ministre étaient également détenus. Ils sont fouillés au départ et à l'arrivée, a encore dit Michel Aoun. Le président libanais a qualifié la détention de Saad Hariri par l'Arabie saoudite d'acte hostile qui porte préjudice à la dignité et à la souveraineté du pays. Elle constitue selon lui une violation de la Convention de Vienne et de la Déclaration des droits de l'homme. Beyrouth, a-t-il assuré, va porter l'affaire sur un plan international pour obtenir le retour de Saad Hariri. Michel Aoun a indiqué qu'il ne prendrait pas acte de la démission du Premier ministre que si elle est présentée à Beyrouth et conformément aux usages constitutionnels. Quelques minutes plus tard, Saad Hariri a insisté sur son compte Twitter qu'il allait très bien et si Dieu le veut, il compte retourner au Liban comme il l'a promis. Dans une interview dimanche, Saad Hariri, apparu en mauvaise forme, avait assuré qu'il rentrerait au Liban dans 2 ou 3 jours.
C'était Paul Khalife pour RFI. Et avant cela, eh bien, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, est à Riyad. Le tout pour éclaircir la situation. Nicolas Falaise.
Dès ce mercredi soir, Jean-Yves Le Drian rencontre le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, un dîner consacré aux dossiers régionaux, mais qui devrait être dominé par la crise libanaise. Avec cette interrogation, Saad Hariri est-il libre de ses mouvements? La question se pose depuis le coup de théâtre du 4 novembre et l'annonce par Saad Hariri de sa démission dans une allocution prononcée à Riyad. Ce jeudi, le ministre français des Affaires étrangères sera reçu en audience par le roi Salman d'Arabie Saoudite. Il a également rendez-vous avec le chef de la diplomatie saoudienne et surtout avec Saad Hariri lui-même, un premier ministre libanais qui devrait être sur le point de quitter Riyad selon ses propres déclarations diffusées mardi sur Twitter. Avec ce déplacement de Jean-Yves Le Drian, la France confirme qu'elle est en première ligne pour tenter de résoudre cette crise. Rappelons que le président Emmanuel Macron lui-même a effectué une visite impromptue à Riyad la semaine dernière. Le voyage du chef de la diplomatie française en Arabie Saoudite cette semaine était prévu de longue date, notamment pour transmettre au prince héritier et homme fort d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, une invitation à se rendre en France.
Nicolas Falaise pour RFI. 13h12, on va parler de sport maintenant et la qualification des Socceroos pour la Coupe du Monde en Russie. 3-1, c'est le score final contre le Honduras. C'était hier soir, hat-trick, coup du chapeau du capitaine de l'équipe, Milé Jedinak. De son côté, le sélectionneur refuse de commenter plus en avant sur son avenir à la tête de l'équipe. On écoute Ange Postecoglou.
You know what, if people still think that I go around worrying about what other people say, trying to get some vindication, they just, they've missed the last 20 years. I've been coaching for 20 years, mate. I won my first championship when I was 31 years old. And you know what, I can coach for another 20 years and I'll always be an outsider in Australian football. I don't have the glittering Socceroo career that you need, but that's fine. I wear that as a badge of honour, as I keep saying to people. The more it comes my way, the more determined and resilient I am to just keep going down my own path.
Voilà, donc Ange Postecoglou hier, donc après la victoire des Socceroos et la qualification pour la Coupe du Monde en Russie. Ce sera l'été prochain pour la Russie et pour l'Europe, donc en hiver prochain pour nous. À 13h13, on fera un grand coup d'œil météo. D'ailleurs, d'abord, je vous rappelle qu'il y a le journal des sports dans quelques instants, pardon. Journal des sports complet avec le retour sur bien la sélection de la France comme hôte de la Coupe du Monde de rugby pour 2023. Jean-Noël nous expliquera tout ça après la météo. Coup d'œil donc météo pour aujourd'hui. À Perth, il fera 36 degrés, Adélaïde 19, Melbourne 21, Hobart 16, Canberra 23, Sydney 25, Brisbane 27, Cairns 30 degrés et Darwin 33 degrés. Coup d'État ou non au Zimbabwe, l'armée a pris le pouvoir, le président l'a retenu, mais les autorités démentent un push. La situation du Premier ministre au Liban n'est toujours pas claire alors qu'il est attendu à Paris. Et on vient d'entendre les Socceroos se qualifier pour la 4e Coupe du Monde de football de leur histoire. 13h14, courte pause et on retrouve Jean-Noël pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench